VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la course à la Maison Blanche ici aux États-Unis. Les élections primaires continuent dans le camp républicain, victoire hier dans le Nebraska et en Virginie occidentale du milliardaire Donald Trump qui reste seul dans la course après le retrait de ses adversaires. Par contre, dans le camp démocrate, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton continue de se battre contre le sénateur Bernie Sanders. Ce dernier a vaincu Mme Clinton à la primaire démocrate de Virginie occidentale, mais cette victoire ne remet pas en cause le statut de favorite pour l'investiture de l'ancienne secrétaire d'État du président Barack Obama, Lionel Gaïma.
Les chaînes de télévision ont déclaré Sanders vainqueur sur Clinton dans cet État où la quasi-totalité des votants étaient blancs, selon le sondage de sortie d'urne. Cet électorat blanc reste le point faible de Hillary Clinton, qui a bâti son succès électoral depuis le 1er février, principalement sur les minorités noires et hispaniques, ainsi que sur les femmes. Mais cette défaite ne remet pas en cause sa probable investiture. Seuls 29 délégués étaient en jeu mardi et ils seront repartis à la proportionnelle. Et Hillary Clinton mène largement dans la course aux délégués. Avec 2224 délégués avant cette primaire, elle était proche de la majorité absolue de 2383, tandis que Bernie Sanders n'en avait que 1448 selon l'estimation de CNN. Côté républicain, Donald Trump, candidat probable du Parti républicain à la présidentielle, a remporté les primaires de Virginie occidentale et du Nebraska, un résultat sans surprise puisque tous ses rivaux s'étaient retirés de la course la semaine dernière. Leurs noms apparaissent toutefois sur le bulletin de vote.
En Gambie, le principal parti d'opposition fait état de nouvelles arrestations parmi ses militants et sympathisants. Les précisions de Michel Joseph.
Un des responsables du Parti démocrate uni, UDP, Aladji Darbo, affirme que les personnes visées protestaient contre le maintien en détention d'une cinquantaine d'opposants arrêtés en rapport avec les manifestations des 14 et 16 avril derniers. Maintenus en prison depuis lors, ces derniers sont inculpés sous les chefs d'accusation de rassemblement illégal, d'incitation à la violence et de complot. Parmi les opposants en détention figure le leader de l'UDP, Ousseynou Darbo. Tous ont plaidé non coupables. Des témoins rapportent que des heurts avaient opposé lundi les forces de l'ordre et des manifestants pro-UDP près de la haute cour de Banjul et les arrestations avaient suivi quelques heures plus tard. Les manifestants brandissaient des banderoles où l'on pouvait lire notamment « Nous voulons la fin de la dictature » ou encore « Arrêtez les tueries ». Au pouvoir depuis son coup d'État de 1994, le président Yahya Jammeh dirige la Gambie d'une main de fer. Il est candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre.
Grève des magistrats au Niger. Les grévistes exigent des autorités de meilleures conditions de travail, mais aussi et surtout la réhabilitation de deux magistrats suspendus par le ministre de la Justice. Cet arrêt de travail, largement suivi hier, en est à sa deuxième journée et paralyse le secteur de la justice dans le pays. Ayouba Hassan, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, se prononce sur le cas des juges suspendus.
Le ministre est tenu de rapporter cette décision de suspension-là pour mettre les collègues dans les droits. On leur reproche des faits dont normalement c'est la procédure judiciaire qui devrait quand même essayer de leur dire qu'est-ce qu'on leur reproche. Maintenant, et ça a passé qu'on leur reproche. Ils ont été suspendus jusqu'à l'expiration du délai de 5 mois. Rien n'a été fait. Donc on dit non, ça c'est de l'insécurité juridique. On ne peut pas rester dans ce cas-là. Si un ministre peut se lever et suspendre des magistrats et qu'il n'y a pas de poursuite disciplinaire contre eux, je crois que c'est très grave. Donc on ne peut pas tolérer. Donc on a dit stop, il faut arrêter ça. Cette grève est suivie à 100%. On a fait l'évaluation tout à l'heure au niveau de toutes les juridictions. Commençons par Niamey, donc tribunal de Niamey, cour d'appel et les hauts juges, tout, c'est clair. Même des assises qui ont été prévues à Tillabéri n'ont pas eu lieu. Voilà, donc vraiment la grève a été suivie parce que les magistrats ont compris, ils n'ont même pas le choix.
Ayouba Hassan, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, l'opposant congolais Moïse Katumbi est entendu de nouveau aujourd'hui par un magistrat du parquet à Lubumbashi au Katanga dans le cadre d'une enquête pour recrutement de mercenaires. L'audience a commencé à la mi-journée après que la police congolaise eut dispersé à coups de matraque et de gaz lacrymogène ce matin plusieurs milliers de partisans de M. Katumbi rassemblés autour et à l'intérieur du palais de justice de Lubumbashi. Candidat déclaré à la prochaine présidentielle, l'ex-gouverneur du Katanga qualifie de mensonge grotesque les accusations de recrutement de mercenaires portées contre lui et dénonce ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de la justice visant à lui nuire et à le mettre hors jeu politiquement. Rwanda, ouverture aujourd'hui à Kigali du 26e Forum économique mondial pour l'Afrique sous le thème « La connexion des ressources de l'Afrique grâce à la transformation numérique ». Plus de détails avec notre correspondant sur place, Maurice Magorani.
Les dirigeants vont échanger sur la diversification économique et pour une croissance inclusive. Mais les participants sont invités à tenir compte des changements technologiques rapides qui ont le potentiel de créer de nouvelles industries. Comme l'explique Elsie Kanza, directrice de la zone Afrique du World Economic Forum.
Nous avons besoin de la digitalisation pour pouvoir s'approcher de chacun. Il n'est pas possible de se développer avec les moyens traditionnels ou avec les techniques traditionnelles. Cela veut dire que nous devons utiliser la digitalisation comme outil pour aller plus loin.
Après avoir accueilli le championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2016, et le Forum économique mondial sur l'Afrique qui va avoir lieu cette semaine, le Rwanda s'apprête à accueillir pas moins de 15 grandes conférences mondiales au courant de cette année 2016. Dont un sommet de l'Union africaine en juillet 2016 à Kigali. Un pas de plus pour ce petit pays qui a l'ambition de devenir un centre de conférences internationales. Maurice Magolane, VOA Afrique, Kigali.
Cameroun maintenant, les chefs traditionnels et imams du pays sont réunis à Yaoundé pour examiner comment lutter efficacement contre le groupe terroriste Boko Haram. Reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Oh Allah, nous te prions et te demandons d'éradiquer les sectes Boko Haram de notre pays.
200 leaders traditionnels et imams venus du Nord Cameroun frontalier avec le Nigeria, réunis à Yaoundé, prient pour la paix au Cameroun. Parmi les clergés, Abdurrahman Ousmane, guide spirituel de Kerawa, ancien otage du groupe Boko Haram, explique qu'il y a des fidèles musulmans camerounais pris en otage par Boko Haram.
Dès qu'on vous amène, on vous hypnotise et on commence à vous donner au moins peut-être des drogues et tout ça là. On te prend en otage, c'est pour tout juste aller te manipuler, à accepter. C'est pour cela. Sinon, tu ne peux pas accepter toi-même étant peut-être, par exemple, comme étant quelque part un chef traditionnel. Tu te dis que tu vas accepter parce qu'on va te donner de l'argent et on va combattre. Et tu vois comment on tue tes gens, hein, ta famille. Comment tu peux accepter ça? Tu ne peux pas accepter.
Selon lui, de retour au Cameroun après leur libération, ces fidèles Camerounais recrutent des jeunes et leur proposent une somme de $500.
C'est les leaders de Boko Haram, les gens qui s'infiltrent là. Quand ils viennent seulement comme ça, ils disent, bon, ben, venez les enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire? Ils disent, oui, on n'a rien à faire. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez, on va vous donner au moins de l'argent. Et comme ça, vous irez au moins, vous allez être des soldats. Et c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup d'argent. Et finalement, vous voyez le résultat.
Le Conseil des dignitaires musulmans et des leaders traditionnels a invité ses chefs de communauté et les clergés pour examiner des moyens pour arrêter l'infiltration de Boko Haram au Cameroun. Moussa Assabé, l'un des membres de dit conseil, a invité les autorités traditionnelles et les leaders musulmans de travailler en collaboration avec les forces de l'ordre et les autorités publiques. Selon lui, la pauvreté et le chômage sont les principales causes de recrutement de ces jeunes par Boko Haram.
Ceux-ci seraient très sensibles au discours de Boko Haram du fait de la pauvreté. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi même les populations locales, du fait du manque, parce qu'ils n'ont rien et qu'ils se sentent un peu marginalisés au sein de la société. Ils pourraient être très sensibles au discours de Boko Haram. C'est-à-dire que si on lui propose, s'il a 10 enfants, et qu'on lui propose 5 millions de francs pour qu'un seul de ses enfants place des bombes, je pense qu'il serait prêt à envoyer un de ses enfants aller mourir parce qu'il prendrait les 5 millions pour prendre soin des autres. Voilà comment est-ce que les populations locales pourraient réfléchir.
La semaine dernière, le chef de l'État camerounais Paul Biya, en visite au Nigeria, a discuté avec son homologue Muhammadu Buhari pour mettre fin à cette activité barbare. Depuis 4 mois, Boko Haram n'a pas réussi une attaque massive dans les deux pays. Une indication que leur force de frappe a diminué. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Et pour terminer, au Comores, les électeurs convoqués pour une présidentielle partielle se rendent nombreux aux urnes et sous très haute sécurité aujourd'hui pour ce scrutin décisif visant à départager l'ex-putschiste Azali Assoumani et le candidat du pouvoir sortant Mamadou. Au total, 6305 électeurs enregistrés dans 13 bureaux de vote sont concernés dans l'île d'Anjouan. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.